Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Écouter le Christ, mais pas l'Église, être avec le Christ, mais en marge de l'Église, ce n'est pas possible, c'est une dichotomie absurde. Dans son homélie, le pape François est revenu sur le sens d'appartenance à l'Église. Mise au point clair du pape ce jeudi, il recevait une délégation de l'Université américaine catholique Notre-Dame-du-Lac, un établissement critiqué pour avoir donné un titre à Barack Obama, président soutenant la contraception notamment. Dans cette émission, nous revenons sur le tourbillon médiatique provoqué en France par un collectif de parents d'élèves protestants contre un enseignement du genre en milieu scolaire. Mercredi, les autorités ont demandé au directeur d'établissement de convoquer les protestataires. Et puis enfin, quelle place accorder, quelle place à prendre pour les religions dans l'espace public? L'objet de plusieurs jours d'études pour le Centre de recherche et d'action sociale, le CERAS à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Être un chrétien sans l'Église, ça n'a pas de sens. Voilà l'affirmation énoncée ce jeudi par le pape François durant la messe célébrée à Sainte-Marthe. L'homélie du pape a pris pour point de départ la figure du roi David qui avait un fort sentiment d'appartenance au peuple de Dieu. Et cela, a souligné le pape, nous amène à nous interroger nous aussi sur notre sens d'appartenance à l'Église, notre sentir avec l'Église et dans l'Église. Ce jeudi, le pape indiquait trois piliers du sens d'appartenance ecclésiale, l'humilité, la fidélité et la prière Manuela Fidji.
Présupposé de base, on ne peut comprendre qu'un chrétien soit sans église. C'est pour cette raison que le grand Paul VI disait que c'est une dichotomie absurde que d'aimer le Christ sans l'église. Écouter le Christ, mais pas l'église. Être avec le Christ en marge de l'église. Ce n'est pas possible, c'est une dichotomie absurde. Le message évangélique, nous le recevons dans l'église et notre sainteté, nous la réalisons dans l'église. Notre route, nous la menons dans l'Église. Toute autre chose est fantaisiste. Pour le pape, le sensus ecclésiae, c'est justement ce fait de sentir, penser, vouloir dans l'Église. Premier pilier d'appartenance, l'humilité. La conscience d'être inséré dans une communauté comme une immense grâce, que l'histoire du salut n'a pas commencé avec moi et ne finira pas quand je mourrai. Second pilier, la fidélité qui doit être reliée à l'obéissance. Fidélité à l'Église, à son enseignement, au credo, à la doctrine. Protéger cette doctrine. Nous la recevons comme un don et devons la transmettre comme un don, mais pas comme une chose qui nous appartient. Enfin, troisième et dernier pilier, prier pour l'Église. Et le pape de conclure que le Seigneur nous aide à aller sur cette route pour approfondir notre appartenance à l'Église et notre sentir avec l'Église.
L'autorité d'information financière a un nouveau président. Le pape a accepté la démission du cardinal Attilio Nicora, âgé de 77 ans en mars prochain. Il a nommé à son poste, par intérim toutefois, Monseigneur Giorgio Corbellini, l'évêque titulaire d'Albula. Ce dernier conserve son titre de président du bureau du travail du siège apostolique et de la commission disciplinaire de la Curie romaine. Mise au point clair ce jeudi midi au Vatican entre le pape et la délégation de l'Université Notre-Dame-du-Lac, un établissement catholique situé dans l'état de l'Indiana aux États-Unis. Dans son discours, le pape François a exprimé son souhait de voir l'université continuer, je cite, à offrir sans ambiguïté un témoignage de son identité catholique qui a présidé à sa fondation et ce malgré les efforts d'où qu'ils viennent qui tentent de diluer, ce sont ses mots, ce témoignage indispensable. L'Obamacare, le système de santé mis en place par le président Obama, est critiqué par l'épiscopat américain et s'est invité sans être nommé directement dans cette rencontre. Xavier Sartre.
La remise d'un diplôme honoris causa à Barack Obama en 2009 ne semble pas encore avoir été digérée. À l'époque, les évêques américains avaient blâmé l'université Notre-Dame pour ce geste envers un président affichant des idées contraires à l'enseignement de l'Église. À cela s'ajoute maintenant l'Obamacare qui contraint les institutions religieuses à financer des actes contraires à leurs convictions. C'est pourquoi le pape a encouragé l'établissement à renforcer son témoignage chrétien qui constitue son identité propre et à la défendre, à la conserver, à la faire progresser. Si citant son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape François souligne la dimension missionnaire de l'engagement à suivre le Christ, qui doit être évident dans la vie des individus et dans le travail de chaque institution de l'Église. Et cet engagement doit l'être tout particulièrement dans les universités catholiques, car c'est dans leur nature de s'engager à démontrer l'harmonie de la foi et de la raison, et la pertinence du message chrétien pour une vie humaine, pleine et authentique. Le pape enfonce le clou, il rappelle sans embâge qu'est essentiel le témoignage sans compromission des universités catholiques pour l'enseignement moral de l'Église, pour la liberté de soutenir cet enseignement proclamé avec autorité par le magistère des pasteurs dans et au travers de ces institutions. L'université est prévenue, avec elle tous les catholiques américains, ils ont le soutien du pape, à eux de ne pas baisser les bras pour défendre leurs valeurs.
Ils sont en visite à Limina. Les évêques autrichiens ont été reçus par le pape ce jeudi midi. Pas de discours prononcé, mais un texte de François que le pape a remis en personne, aux mains propres, aux évêques. On ne connaît pas les détails, mais interrogé par nos confrères italiens, Mgr Klaus Küng a affirmé que dans son pays, qui se sécularise là aussi, la famille est ce qui donne espoir à l'église locale. En Autriche, 95% des couples qui prennent part à la préparation au mariage vivent déjà ensemble, ont parfois des enfants. Ils sont, dit-il, baptisés, mais pas « évangélisés », entre guillemets. Selon l'évêque de Saint-Pölten, les jeunes Autrichiens sont en demande de couples entre guillemets « traditionnels », c'est-à-dire composés d'un homme et d'une femme, des couples qui dureraient pour la vie. Une occasion, explique-t-il, pour toute l'Église. On connaît l'attention que porte le pape aux personnes âgées. Ce jeudi, à nouveau, François adresse une bénédiction apostolique particulière à toutes les personnes touchées par un drame survenu le 22 janvier dernier à l'île Verte, au Québec. Une maison de retraite a pris feu, un incident tragique qui a fait de nombreuses victimes et blessés. Dans un télégramme envoyé à l'archevêque de Rimouski, le pape s'associe par la prière à la peine des familles endeuillées. François exprime enfin sa proximité spirituelle aux personnes blessées, à leurs familles ainsi qu'aux pompiers et aux secouristes qui ont fait un beau travail de solidarité. La session annuelle du CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale, composé de jésuites et de laïcs, s'achève. Cette année, elle avait pour thème les religions dans l'espace public pour pouvoir dresser un état des lieux sur ce sujet. Des ateliers, des débats se sont tenus pendant 4 jours. Alors, quelle est aujourd'hui la place des religions dans l'espace public? Quels sont les défis auxquels doivent faire face les institutions religieuses? Audrey Radondi a posé ces questions à Christian Mellon. Il est chargé du pôle formation au CERAS.
La privatisation du croire, la privatisation du phénomène religieux, qui est un phénomène de longue haleine, ne signifie pas pour autant une diminution de l'importance du religieux comme tel dans la société. Les gens n'appartiennent beaucoup moins qu'avant à des institutions précises, mais la question religieuse continue à rester. Elle est même en hausse, semble-t-il, ces dernières années, comme centre d'intérêt, comme expérience spirituelle, beaucoup plus que comme référence à des lois ou à des directives. Mais les églises, notamment les églises chrétiennes, sont perçues comme pouvant répondre aux besoins religieux des personnes. C'est du moins ce qui apparaît dans les sondages. La question qui se pose, c'est effectivement les institutions religieuses, donc les organismes, les églises instituées. Effectivement, comment vont-elles trouver une place dans cet espace public au moment où leur crédibilité est très très faible en ce qui concerne des commandements, des lois, une interférence avec ce que les gens perçoivent comme légitime? Et en même temps, elles sont légitimées pour donner du sens aux grandes questions d'existence, la vie, la mort, l'amour. Et donc c'est tout un enjeu pour elles, et notamment pour les églises chrétiennes dans les sociétés occidentales, de tenir compte de ces nouvelles attentes et d'adapter leur manière d'intervenir dans le débat à ce contexte de sécularisation de plus en plus poussé.
Et justement, est-ce que vous pensez que elles arrivent quand même à se faire entendre, notamment dans la société française?
Des personnalités, des témoignages, il y a toujours une grande estime pour ce qu'on pourrait dire les personnes qui témoignent du sens qu'elles ont trouvé dans la foi, dans l'engagement. Là où ça coince un peu, c'est quand les églises, par la voix de l'autorité, prétendent dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais, et là, ça passe mal, quoi. Et ça correspond quand même à une attente d'une partie, notamment des chrétiens eux-mêmes. On l'a vu l'an dernier autour des débats sur la loi Taubira, par exemple, en France. Donc ça correspond, il ne faut pas s'en cacher, bien sûr, à une partie de ceux qui se reconnaissent dont l'identité catholique est affirmée. Et pour eux, il est légitime, voire nécessaire, que l'Église dise haut et fort ce qu'elle pense dans les débats publics. Mais ce n'est pas le cas de la très grande majorité des citoyens, même ceux qui ont de l'intérêt pour le religieux comme donneur de sens ou garant du lien social, du vivre ensemble.
Et par rapport à la place des religions, est-ce qu'on peut dire qu'on voit donc qu'il y a une sécularisation, c'est-à-dire que le religieux devient quelque chose de plus privé et qu'en même temps, il y a une médiatisation des religions avec un message qui est un peu différent, où on ne met pas les mêmes choses en avant?
Le problème des médias, c'est un problème spécifique, effectivement, parce qu'il semble que, d'une part, les journalistes, les médias traditionnels, qui sont assez souvent marqués par une approche très réticente envers le religieux, parfois même hostile, mais, ou en tout cas qui préfèrent mettre en avant ce qu'il y a de surprenant ou de choquant. Et puis alors, en sens inverse, je dirais, l'apparition des médias sociaux qui fait que l'éparpillement, l'émiettement des convictions, des croyances, alors peut se donner libre cours sur le net sans aucun contrôle, et avec les choses les plus aberrantes d'une part ou au contraire les plus intéressantes de l'autre. Il n'y a plus cette régulation qu'il pouvait y avoir quand il y avait simplement les journaux, la télé, enfin, avec des lignes éditoriales, etc. Donc là, on est devant un problème nouveau, qui est que beaucoup de choses passent maintenant, surtout chez les jeunes, par ce qu'on appelle les médias sociaux, et que c'est quelque chose que personne ne contrôle, ni le politique, ni les institutions religieuses d'ailleurs.
Donc on a parlé de l'évolution donc, de la place des religions, notamment donc en France. Est-ce que c'est une tendance qu'on peut voir, cette sécularisation? Après, au niveau aussi de l'échelle européenne?
Alors, non seulement européenne, mais on pourrait dire l'ensemble du monde occidental, États-Unis compris. C'est certain que la France est celle qui en présente les traits les plus forts et les plus caractéristiques, mais on retrouve la même évolution absolument partout, simplement avec des décalages dans le temps. L'Irlande et l'Italie étant, sur ce plan, par exemple, pas du tout dans les mêmes chiffres, selon les sondages, que l'Allemagne ou l'Espagne, mais même les États-Unis, contrairement à ce qu'on croit parfois, est une société assez profondément sécularisée, c'est-à-dire une société où, même si on continue à croire, on croit parce que ça me fait du bien, parce que j'y trouve mon bien, parce que voilà, ça passe toujours par la médiation de l'individu qui choisit de croire ou d'adhérer à telle ou telle vérité religieuse, plutôt que de prendre un paquet d'ensemble qui serait à prendre ou à laisser. Ça, c'est de moins en moins fréquent.
Quels sont les défis qui attendent les institutions religieuses?
Eh bien, c'est justement de réaliser que le monde a beaucoup changé, les mentalités ont changé par rapport à ça, et de savoir se situer dans une perspective de dialogue et non pas d'imposition d'une règle, mais d'entrer dans le débat public avec une identité. Les sondages montrent que les gens ne sont pas du tout contre qu'on affirme son identité, d'où on parle, qui on est, qu'on est une église, qu'on n'est pas une secte, enfin, mais à condition de tenir un discours qui respecte le fait que d'autres sont situés autrement, disent autre chose. Donc c'est cette affirmation du dialogue qu'on trouve d'ailleurs au cœur du Concile Vatican II. La proposition de la foi s'adresse à chacun dans sa liberté et non pas être imposée par quelque organisme public que ce soit, comme ça a pu l'être sous l'Ancien Régime.
En quoi donc l'apport de chacune des religions dans l'espace public est indispensable?
Ben justement parce qu'elles font du lien. Le problème de l'État moderne, c'est qu'il est sécularisé lui aussi. Il n'y a plus rien de l'ordre du lien social qui fait vivre ensemble, des valeurs communes, etc. Et là, il y a un manque auquel même des auteurs, des philosophes contemporains athées ou agnostiques comme Habermas reconnaissent l'importance, ou bien Marcel Gauchet en France, reconnaissent l'utilité, l'intérêt, l'importance d'une parole des religieux sur le sens de faire communauté, sur le sens de respecter telle ou telle valeur fondamentale, sur le sens de l'aventure humaine, toute chose que l'État, sur lequel l'État contemporain n'a rien à dire, et ne cherche d'ailleurs plus à dire grand-chose. Et là, les religions peuvent apporter une contribution tout à fait essentielle.
C'était Christian Mellon, chargé du pôle formation au CERAS, des propos recueillis par Audrey Radondi. En France, la théorie du genre refait parler d'elle, en particulier en milieu scolaire. Il y a un mois maintenant, un collectif s'est créé, appelé JRR, Journée de retrait de l'école. Il rassemble des parents d'élèves protestant contre un enseignement du genre en milieu scolaire. Ces derniers jours, des échanges de SMS afin d'inciter à garder les enfants à la maison un jour par mois ont provoqué un véritable tourbillon médiatique. Une centaine d'écoles françaises ont été perturbées par ce boycott, à tel point que le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a demandé aux directeurs d'établissement que les parents d'élèves absents soient convoqués. Derrière les rumeurs, une véritable inquiétude perce, y compris chez de nombreux catholiques. Depuis longtemps, l'Église essaye d'alerter sur de possibles dérives dans ses réflexions en rappelant les dangers de relativiser l'altérité sexuelle et en insistant sur la complémentarité homme-femme. Pour Claude Berruer, secrétaire général adjoint chargé à l'éducation au sein de l'enseignement catholique, il est important de désamorcer les passions dans ce débat.
La théorie du genre donne déjà lieu, me semble-t-il, à beaucoup de malentendus. C'est un travail universitaire qui produit des théories du genre. La traduction elle-même de l'anglais gender par genre n'est pas sans poser un certain nombre de questions et je crois qu'on fait beaucoup d'amalgames. Il y a donc des recherches universitaires qui ont le droit de s'exercer et puis il y a, je crois, une réelle préoccupation dans le système éducatif qui est de travailler à l'égalité des garçons et des filles, des hommes et des femmes, puisqu'on fait le constat dans la société d'un certain nombre d'inégalités persistantes. Mais ce que nous constatons jusqu'à maintenant, ainsi que l'a rappelé le ministre, c'est qu'aucun programme scolaire français ne demande d'enseigner une quelconque théorie du genre.
Il y a un malentendu selon vous, puisque certaines associations, certains parents s'inquiètent profondément que la théorie du genre soit enseignée à l'école et appellent justement à un retrait de leurs enfants certains jours de l'école.
C'est le propre d'une rumeur que les parents en question fassent la preuve de ce qu'ils avancent. Les programmes sont connus. Autant le ministre, et on peut aussi en discuter, réfléchir aux modalités pédagogiques, avance de façon réitérée la préoccupation de l'égalité homme-femme, à aucun moment les textes du ministre et les programmes scolaires connus ne font mention de la nécessité d'enseigner la théorie du genre.
Certains détracteurs de cette théorie et certaines personnes qui craignent ce déferlement d'un enseignement du genre prennent la fameuse méthode ABCD du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi du ministère pour le droit des femmes, qui veut s'attaquer aux stéréotypes garçon-fille en disant « cela va trop loin ». Est-ce que finalement, attaquer cette méthode n'est pas contre-productive ?
Il faudrait demander aux auteurs de la polémique. Les ABCD, si on regarde comment ils sont constitués, font état d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas porteurs d'une très grande nouveauté, c'est-à-dire qui est des rôles hommes et femmes, certains étant légitimes, d'autres relevant de stéréotypes, qu'il y ait eu dans l'histoire des évolutions, qu'il y ait eu un certain nombre de questionnements posés par les artistes. Voilà, c'est le matériau des ABC de l'égalité. Tout ça peut être intéressant dans un contexte particulier à regarder à l'école. Moi, je trouve personnellement que les ABCD de l'égalité ne sont pas un ensemble de documents très passionnants. Je me demande bien ce que j'en ferais si j'étais enseignant. En revanche, je ne vois rien qui soit de nature proprement scandaleuse. En tout cas, c'est un document qui est proposé à titre expérimental et qui, pour l'instant, ne concerne aucunement l'enseignement catholique.
Comment vous expliquez-vous, Claude Berruer, finalement, cette passion et ces craintes qui sont relayées beaucoup sur Internet, certes, mais qui ont l'air de répondre à des inquiétudes réelles, quand même ?
Je me demande si on n'est pas, pour le coup, dans un problème de communication et de déferlement médiatique, qu'il y ait ici ou là des lobbies qui seraient des promoteurs de la théorie du genre, c'est clair. Qu'ils soient agissants, c'est clair aussi. Maintenant qu'ils aient une influence aussi forte dans le monde éducatif que le prétendent un certain nombre de réseaux, me semble, pour une bonne part, extrêmement exagéré, voire fantasmatique.
Concernant le retrait des élèves demandé par certains parents, vous-même, dans l'enseignement catholique, vous avez été confronté à cela et quelle réponse apportez-vous ?
Un certain nombre de collègues en nombre limité ont pu nous interroger. Pour les endroits où j'ai vu les choses se faire, ils ont plutôt mis en garde les chefs d'établissement contre toute tentative d'instrumentalisation. Mais ceci ne me semble pas du tout massif. Et en tout état de cause, nous disons tous que s'il y a de vraies préoccupations, il faut qu'on les traite entre adultes et qu'on ne peut pas instrumentaliser les enfants et les priver d'une journée de classe pour un combat qui, pour l'instant, doit être posé calmement entre adultes responsables.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Et c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle notre adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français.